France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Lundi 8 avril, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la taxation des géants du numérique, les GAFA. Le projet de loi arrive à l'Assemblée, défendu par Bruno Le Maire, qui plaide pour une fiscalité plus juste, plus efficace. C'est aussi ce que réclament les Gilets jaunes à l'heure de la restitution du grand débat. Tous les détails, Agnès, après les autres titres.
Mon banquier à l'école ou comment apprendre les rudiments de la finance au CM1, quand Bollywood s'invite dans la campagne électorale en Inde, le difficile mais nécessaire recyclage des pots de yaourt, et puis le héros de Virginie Despentes, Vernon Subutex, fera-t-il un crédible héros de série? Réponse ce soir.
Les invités de France Inter ce matin. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
L'Europe puissante, celle qui met des amendes aux GAFA, qui punit les ententes des constructeurs automobiles, c'est elle, la commissaire européenne à la concurrence. Mais depuis qu'elle a dit non au rapprochement Alstom Siemens, certains l'accusent désormais d'être l'Europe boulée, celle qui empêche les champions européens. Margrethe Vestager est avec nous à 7h50.
Et à 8h20, à tout à l'heure Alexandra, 8h20, alors que la synthèse du grand débat national démarre donc aujourd'hui. Quelle place, quelle revendication pour les corps intermédiaires? Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est l'invité du grand entretien. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
La fiscalité à la française, avec la taxe sur les géants du numérique, discutée à partir de cet après-midi à l'Assemblée, aboutissement de la détermination du gouvernement français d'aller jusqu'au bout de la démarche, même si, Delphine Simon, même si les voisins européens n'ont pas suivi, même si l'opposition dénonce une taxation à minima, même si Washington juge la démarche discriminatoire.
Premier objectif, taxer les géants du numérique sur les revenus qu'ils génèrent en France, la publicité en ligne, la vente des données personnelles, les clics et les likes et la mise en relation des clients et des entreprises. Une taxe de 3% sur leur chiffre d'affaires qui devrait s'appliquer à une trentaine de groupes comme Mythic, Amazon, Airbnb, Instagram ou encore la française Criteo. De quoi rapporter 400 millions d'euros dès cette année dans les caisses de l'État, selon le rapporteur du budget. Une taxe qui ne fait l'unanimité ni à droite ni à gauche. Les Républicains dénoncent un texte d'affichage politique. Les Insoumis pointent son manque d'ambition. Son assiette est aussi large qu'une soucoupe, affirment les communistes. Certes, elle sera efficace dans le cas de Facebook et Google, dont les revenus sont principalement issus de la publicité en ligne, mais elle ne permettra de cibler que très faiblement les profits d'Apple, Amazon et Microsoft. Au total, calcule l'ONG ATTAC, les deux tiers du chiffre d'affaires des géants américains devraient échapper à cette taxe GAFA à la française, un nouvel impôt qui disparaîtra, promet le ministre de l'économie, dès qu'une solution internationale aura été trouvée.
Et ces 400 millions serviront à financer une petite partie des 10 milliards d'euros de mesures annoncées en décembre pour apaiser la colère des Gilets jaunes, colère qui s'exprime depuis près de 5 mois et que le gouvernement a tenté d'apaiser en lançant le grand débat national. Résultat, près de 2 millions de contributions sur Internet, plus de 10 000 réunions locales, un tour de France en 80 jours pour le chef de l'État, plus de 600 000 pages noircies dans les cahiers de doléances. Alors, quel bilan dressent celles et ceux qui ont organisé ces débats que nous avons fait vivre sur France Inter? Delphine Nous est retournée en Bretagne et dans le sud-ouest.
Fin janvier, à Marciac, dans le Gers, ils étaient une trentaine rassemblés dans la salle des fêtes de la ville.
J'ai un devoir de neutralité, donc c'est pas moi qui vais orienter le débat, je suis juste là pour le cadrer.
À l'initiative de Lionel Duzer, ouvrier agricole, simple citoyen, qui après rédaction du compte-rendu exhaustif, constate que dans son village, les problématiques sont les mêmes qu'au niveau national.
Je voyais que les retraités, ils étaient pris à la gorge, qu'on leur fonctionnait avec la CSG encore plus, et après, au niveau des salariés, qu'on puisse faire en sorte de pouvoir augmenter un peu plus que le SMIC. Au niveau de la fiscalité, c'est-à-dire comment avoir un impôt plus juste, comment est utilisé concrètement les impôts, la taxe foncière, la taxe d'habitation et toutes les taxes. Et après, le vote, donc ce qui est sorti, c'est qu'on puisse prendre en compte aussi le vote blanc.
À 700 km de là, sur les côtes bretonnes, Saint-Briac-sur-Mer, deux jours avant Marciac, même thèmes abordés.
Quels impôts faut-il, à vos yeux, baisser en priorité? Donc, allons-y.
Mais la culture et l'éducation se sont rajoutées. 5 grands débats organisés en 2 mois, 1 millier de participants en tout et une grande satisfaction pour Vincent Dambi-Wilkes, le maire sans étiquette.
Contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a un véritable intérêt pour le devenir du pays dans lequel on vit, une extrême attention aux choix qui sont faits et un souhait de pouvoir y participer. Ça, c'est pour moi l'enseignement le plus important.
De Saint-Briac à Marciac, l'attente est la même, que l'exécutif mette en œuvre les demandes. Plus de consultations, plus d'écoute et plus d'efficacité des institutions publiques.
Édouard Philippe attendu donc dès 9h ce matin sous la verrière du Grand Palais devant plusieurs centaines de personnes pour la synthèse officielle avant les annonces du chef de l'État, sans doute la semaine prochaine. Fiscalité, budget, et s'il n'y avait pas d'âge pour en parler, la Fédération bancaire française organise chaque année une opération intitulée « J'invite mon banquier dans ma classe ». Des ateliers sont ainsi organisés dans les classes de CM1 et CM2. Sonia Princé a assisté à l'une de ces séances.
Vous allez tous jouer par équipe, une couleur par équipe, on va la déterminer.
Le banquier est arrivé dans la classe avec un jeu. Les élèves doivent répondre à des questions et gagnent des points, des questions de la vie courante.
Je n'ai plus d'argent pour aller au cinéma, mais ma mère refuse de me donner une avance sur l'argent de poche du mois. Que faire ? Notre réponse qu'on pensait la meilleure, c'était faire un prêt à la banque.
Est-ce que vous avez le droit, vous là, avec votre petite jambe, est-ce que toi t'as le droit d'aller faire un prêt à la banque ?
Non.
Pour faire un prêt à la banque, faut avoir quel âge ?
18 ans.
Question aussi sur les différents moyens de paiement.
Le chèque, la carte bleue et l'argent liquide.
La carte American Express.
La carte grise, ça marche ?
C'est la carte noire.
Il y a la carte gold.
Mon père, il en a une. C'est en fait la carte gold. Il y a plus d'argent dans celle-là. Ça, tu vas acheter des plus grosses choses.
Le banquier rectifie, bien sûr.
La carte, elle fonctionne avec ce qu'il y a sur ton compte en banque. Donc, si t'as pas d'argent sur ton compte, bah, chez le commerçant, elle va pas passer ta carte.
Christophe Jaouen est directeur de banque et représente la Fédération bancaire française.
Il y a aucune publicité là-dedans parce que j'interviens au nom de la FBF et non pas au nom du LCL. Néanmoins, ce sont des futurs clients. C'est les futurs agents économiques de demain. Et donc, les acculturer à l'économie et au budget le plus vite possible, ça peut être bien pour tout le monde, finalement.
Et ces futurs clients ont aussi appris tout un nouveau vocabulaire, comme être dans le rouge ou investissement, utile pour plus tard.
Le reportage de Sonia Princé. La hausse des prix constatée par l'étude Nielsen, hausse qui concerne les alcools, plus 3,2% en moyenne depuis le 1er février, conséquence indirecte de l'entrée en vigueur de la loi alimentation. La grande distribution obligée de mieux rémunérer les producteurs se rattrape sur certains produits.
Il est 7h07, Agnès. Nissan tourne définitivement la page. Carlos Ghosn.
Limogé en novembre de la présidence de Nissan après son arrestation, Carlos Ghosn vient de perdre le dernier mandat qui lui restait au sein du groupe japonais. Les actionnaires actuellement réunis dans un grand hôtel de Tokyo ont voté la révocation de son mandat d'administrateur et c'est Jean-Dominique Senard qui vient d'être élu comme nouveau membre du conseil d'administration. En Inde, les spectateurs raffolent des mélos sur grand écran, mais aujourd'hui, c'est une biographie élogieuse du premier ministre Narendra Modi qui fait débat. Le film doit sortir dans les tout prochains jours, à moins que la Cour suprême indienne, saisie par l'opposition qui dénonce une propagande, n'interdise sa diffusion. Sébastien Farcy a vu le film pour France Inter.
Le film retrace la vie de Narendra Modi avec une grande complaisance. On le voit dans l'armée avancer sous les balles et portant un énorme drapeau indien et de lancer « L'Inde n'aura pas peur du terrorisme, le terrorisme aura peur de l'Inde ». Le problème, c'est que ce film réécrit dangereusement son histoire. En 2002, le vrai Narendra Modi est chef du gouvernement régional du Gujarat quand des pogroms anti-musulmans dévastent cet état, causant la mort de 2000 personnes. Des enquêtes ont montré qu'il aurait ordonné à la police de laisser faire. Or, dans cette hagiographie, Narendra Modi court dans les rues pour secourir les blessés et pleure en voyant le Gujarat brûler. Le parti du Premier ministre affirme qu'il n'a aucun lien avec le réalisateur du film, argument accepté par la commission des élections qui a donc rejeté la plainte des partis d'opposition. Et c'est donc la Cour suprême qui doit décider à partir d'aujourd'hui si ce film de propagande peut sortir pendant la campagne électorale. Ceci alors qu'une autre série élogieuse de 10 épisodes sur sa vie est déjà sortie sur Internet, complétant cet exceptionnel culte de la personnalité de Narendra Modi. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Il est 7h09 et dans la catégorie plastique non recyclé, Agnès, je demande les pots de yaourt.
Des milliards de pots de yaourt consommés chaque année. Alors existe-t-il des solutions alternatives ? Question que se sont posées les industriels des produits laitiers réunis en fin de semaine dernière en Assemblée Générale. Et visiblement, Célia Kidré, ils ne sont pas encore prêts à tourner la page du plastique.
Chaque année, 16 milliards de pots de yaourt ou produits laitiers frais sont consommés en France. L'enjeu est considérable pour les industriels qui veulent à la fois répondre aux exigences environnementales des consommateurs sans pour autant perdre des marges. Pour Jérôme Servière, il n'y a pas de solution miracle. Ce fabricant de yaourts plébiscite toujours le plastique. Il préside le syndicat des industriels de produits laitiers frais.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Il n'est pas du tout certain que le verre soit un meilleur matériau pour la planète que le plastique. C'est un matériau qui pèse lourd. Le verre n'est pas recyclable à l'infini non plus. Les machines carton, c'est des machines complètement différentes qui exigeraient de renouveler l'ensemble du parc industriel et qui fatalement auraient un niveau de compétitivité qu'on ne pourrait pas avoir tel qu'on l'a aujourd'hui avec le plastique.
Ces industriels rêvent donc d'un polystyrène recyclé. Les pots de yaourt pourraient être alors triés, traités pour être réutilisés. Et cette hypothèse paraît crédible à Michel Fontaine, le président du Conseil national de l'emballage.
Le yaourt est majoritairement en polystyrène. Il va être recyclé, comme le verre ou comme le carton. Je pense que c'est l'avenir, oui.
Et pour les industriels, le yaourt, c'est comme le champagne. Si on enlève la bouteille, la boisson n'existe pas. Hors de question de penser au vrac. Or, la loi européenne va les obliger à créer des plastiques entièrement réutilisables ou recyclables d'ici 2030. Et certains voudraient y arriver en France dès 2025.
Pour les yaourts, c'est encore difficile. Mais pour d'autres produits, il existe déjà des solutions. C'est à retrouver dans le dossier Le plastique, non merci, sur franceinter.fr. Les joueurs du PSG vont devoir apprendre la patience et l'humilité après le match nul hier face à Strasbourg au Parc des Princes de partout. La patience, car ils ne sont pas encore champions de France, et l'humilité après un mauvais réflexe de l'attaquant Éric-Maxime Choupo-Moting qui a contré une action parisienne.
Et pour finir, Agnès, les grands succès en librairie font-ils de bons scénarios?
Question récurrente avec exemple et contre-exemple à la pluie. Cette fois, ce sont les deux premiers tomes de la trilogie de Virginie Despentes, Vernon Subutex, qui sont adaptés en série. 9 épisodes de 30 minutes qui débutent ce soir sur Canal et qu'Alexandra Akoun a vu pour nous.
Je me souviens, on entrait dans le rock comme dans une cathédrale. On écoutait de la musique. C'était la dernière aventure du monde civilisé.
Sauf que ça, c'était dans les années 90. Aujourd'hui, Vernon Subutex a 45 ans et le réveil est douloureux. Sa boutique de vinyle a été balayée par le numérique. Au chômage, le cheveu gras, la barbe hirsute. Lorsque la série s'ouvre, Vernon se fait expulser.
C'est pas la peine de faire vos gueules là que vous en fassiez pour moi, je suis pas à la rue.
J'en suis sincèrement soulagé. Je suis pas là, vous, monsieur, on est soulagé.
Commence alors une errance de canapé en canapé en sollicitant les vieux copains. Alex Beach aurait pu l'aider, mais la rockstar meurt d'une overdose, non sans laisser à Vernon son testament sur bande, des cassettes qui vont rapidement faire de l'ancien disquaire devenu SDF, l'homme le plus recherché de Paris.
Tu me le retrouves, d'accord?
Sacré pari que d'adapter en série les deux premiers volets de la saga à succès de Virginie Despentes. Cathy Vernet, qui signe également la réalisation, ne cache pas avoir eu quelques sueurs.
Je me suis demandé comment transposer ça, cette colère, cet élan, ce brutal, et on a choisi vraiment de suivre un personnage, c'est Vernon, qui pouvait ensuite nous amener vers d'autres personnages, mais d'abord Vernon.
Un Vernon au costume un peu trop grand pour Romain Duris, malgré quelques moments de grâce. Heureusement, il est entouré d'une pléiade de second rôle parfait. Quant à la BO qui accompagne les errances de Vernon, elle est la meilleure qu'une série française ait jamais eue. Est-ce vraiment suffisant? Ceux qui n'ont pas lu les romans seront sans doute plus indulgents.
Et Romain Duris et la réalisatrice Cathy Vernet seront les invités de Sonia De Villers à 9h40 dans l'Instant M.
À tout à l'heure et merci Agnès Soubiran. Premier point route, Adèle Bossard.
Point route avec la Grotte Chauvet 2 en Ardèche, le site UNESCO du premier chef-d'œuvre de l'humanité. Visitez la grande exposition des lions et des hommes. Consultez grottechauvet2ardèche.com.
Adèle, bonjour.
Bonjour à tous.
Des difficultés en région parisienne.
Oui, sur l'A10 direction Paris à Massy, l'autoroute est fermée après un gros accident impliquant 4 véhicules et vous êtes bloqué en amont sur plus de 5 km. Un accident à vous signaler également dans la Loire sur l'A72 à hauteur de Montbrison direction Clermont-Ferrand. Là, vous ne roulez plus que sur une voie au lieu de deux.